À l'écoute de RFI, 19h, ici à Paris, 18h en temps universel. Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Diane Berger.
Bonsoir Romain Ouzoui, bonsoir à toutes et tous. À la une de cette édition, l'allocution d'Emmanuel Macron. Dans maintenant une heure, le président français doit s'exprimer concernant l'Ukraine et la sécurité européenne. Avant l'allocution télévisée, nous irons à l'Assemblée nationale dans un instant pour prendre la température du côté des députés. Un discours alors que les relations sont particulièrement tendues entre Kiev et Washington, nous l'avons appris aujourd'hui. Les États-Unis suspendent leur aide à l'Ukraine en termes de renseignements. Autrement dit, l'armée ukrainienne est privée d'outils qui lui donnaient une image précise du champ de bataille des yeux au rôle crucial dans sa guerre contre Moscou. Nous reviendrons aussi dans ce journal sur ce premier revers pour Donald Trump à la Cour suprême, cette juridiction qui lui est pourtant d'habitude très favorable. Ensuite, le dossier de ce journal, les dirigeants européens au chevet du secteur automobile. Bruxelles a présenté son plan de sauvetage pour cette industrie avec un focus sur l'électrique mais aussi des concessions concernant l'environnement. Et puis Amnesty International demande une enquête pour des crimes de guerre au Liban. L'ONG accuse Israël d'avoir ciblé des infrastructures médicales sans suffisamment de liens attestés avec le Hezbollah qui était officiellement ciblé. Emmanuel Macron prend la parole dans une heure. Le président français doit s'exprimer à 20h, heure de Paris, au sujet de l'Ukraine et de la défense européenne. Une allocution à la veille d'un sommet européen crucial sur la question et surtout alors que l'attitude des États-Unis bouleverse tout l'échiquier géopolitique. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, Washington multiplie les gestes vers la Russie au détriment de l'Ukraine. On se souvient de la violente altercation verbale vendredi dernier entre le président américain et son homologue ukrainien. Volodymyr Zelensky. Les sujets sur la table ne vont donc pas manquer ce soir pour Emmanuel Macron. Dans la classe politique française, certains jugent son initiative indispensable, d'autres franchement inutile. À l'Assemblée nationale, Victorien Villaume.
L'intervention surprise d'Emmanuel Macron, une évidence compte tenu du contexte international, défend le député du camp présidentiel, Christophe Plassard.
On a une accélération d'un certain nombre de décisions, des rencontres qui s'enchaînent. Je suis plutôt satisfait qu'il puisse prendre la parole pour éclairer les Français.
Encore une fois, les socialistes restent plutôt alignés sur la stratégie d'Emmanuel Macron et trouvent donc eux aussi l'allocution légitime. Jérôme Guedj.
Dans un moment aussi crucial de bascule dans la géopolitique mondiale, la parole du président de la République est importante. C'est celle de la manière dont nous devons appréhender la nouvelle séquence dans laquelle nous sommes.
Toute autre tonalité chez les Insoumis qui balayent d'un revers de main l'initiative, Sébastien Delogu.
Il ne va rien nous apprendre aujourd'hui, si ce n'est qu'ils vont encore continuer à investir dans l'armement parce que, soi-disant, notre pays est en phase d'être dans une seconde guerre. Il ferait mieux de s'occuper des problèmes quotidiens.
Tandis qu'au Rassemblement National, on continue de qualifier l'exécutif de va-t-en-guerre et d'appeler à une grande conférence internationale pour la paix. Julien Odoul.
On aimerait, effectivement, dans un monde idéal, que le président de la République française garantisse à la France une posture équilibrée. Il faut éviter d'entrer dans un engrenage.
Le discours d'Emmanuel Macron devrait durer une quinzaine de minutes au total.
Victorien Villaume du service politique de RFI. Et puis nous diffuserons en direct ce discours du président français. Édition spéciale ce soir sur RFI, présentée par Romain Ouzoui, donc à 19h, temps universel, 20h, heure de Paris. Donald Trump affirme quant à lui que Volodymyr Zelensky serait prêt à négocier pour une paix durable en Ukraine. Le dirigeant américain l'a annoncé hier soir mardi. Le président ukrainien lui aurait envoyé une lettre dans laquelle il se dit prêt à signer l'accord avec Washington concernant les minerais de son pays. Malgré cela, les relations restent bien dégradées entre Kiev et Washington car après le soutien militaire, les États-Unis ont annoncé mettre en pause le partage de renseignements avec l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi John Ratcliffe, le patron de la CIA auprès de plusieurs médias américains. Pour revenir sur ce que cela représente concrètement, nous sommes rejoints en studio par Franck Alexandre. Bonsoir Franck.
Bonsoir Diane.
Les Ukrainiens ne pourront concrètement désormais plus compter sur le renseignement spatial pour mener leur combat.
Oui, il y avait, rappelez-vous, l'apport de matériel stratégique pour la défense solaire, l'artillerie longue portée, mais l'aide américaine dans le domaine du renseignement était tout aussi cruciale, structurante pour penser la guerre, orienter les manœuvres, planifier les ciblages, en offrant une image très précise du champ de bataille. Et pour ce faire, les satellites géostationnaires constituent la pierre angulaire du renseignement militaire. Positionnés dans l'espace à 36 000 km, ces satellites tournent à la même vitesse que la Terre et offrent des informations en temps réel sur une zone fixe, prédéfinie, des images, mais également des indications sur le trafic électromagnétique. Quand ce trafic s'accroît, cela donne des indications sur les intentions de l'adversaire. Surtout, les satellites américains ont des capacités importantes d'identification d'activité au sol et sur les bases aériennes, une technologie également maîtrisée par les Européens, mais pas dans les mêmes proportions. Les satellites ne sont pas la seule source. Les Ukrainiens aussi savent acquérir du renseignement grâce par exemple au radar. Mais c'est la précieuse expertise américaine, Diane, qui va désormais manquer.
Merci beaucoup Franck Alexandre, spécialiste des questions de défense pour RFI. Ce premier revers judiciaire de taille pour Donald Trump, d'autant plus de la part d'une institution qui lui est normalement plutôt favorable, la Cour suprême. Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre journaliste à Washington, Guillaume Nodin. Bonjour Guillaume.
Bonjour Diane, bonjour à toutes et à tous.
La Cour suprême donc décide que le gouvernement fédéral va finalement devoir verser une partie de l'aide internationale américaine.
Oui, il y en a pour près de 2 milliards de dollars, 2 milliards de financements gelés dès le premier jour du mandat de Donald Trump pour une durée de 90 jours, sauf qu'entre-temps, un juge de première instance avait statué que ces fonds, votés par le Congrès, devaient être versés à leurs bénéficiaires. C'est ce jugement que vient de valider la Cour suprême. Avec cette limite, c'est que les versements correspondent au paiement d'un travail déjà accompli à l'international, mais aussi par des entreprises et des organisations sur le territoire américain. Ce qui est remarquable, c'est que c'est la première fois que la Cour se prononce sur le fond, sur une décision de l'administration, et qu'elle se prononce contre. La raison, c'est que deux des quatre juges conservateurs, des six juges conservateurs, se sont joints aux trois juges dits libéraux pour faire basculer la majorité. Ce n'était manifestement pas ce qui était attendu, puisque dans un texte parallèle, les quatre autres juges conservateurs mis en minorité se disent abasourdi par cette décision, une décision qui, comme toutes celles de la Cour, est définitive et sans appel possible. Elle intervient alors que l'administration Trump a pratiquement démantelé l'Agence américaine pour le développement international. Cette agence gère ou gérait un budget annuel de plus de 40 milliards de dollars, ce qui correspond à plus de 40% de l'aide humanitaire déboursée dans le monde, tous pays confondus.
Merci beaucoup Guillaume Nodin, en direct de Washington pour RFI. Cette aide américaine devenue indispensable face à de nombreuses crises à travers la planète. Ce mercredi, c'est l'OMS qui a alerté l'Organisation mondiale de la santé. Selon ses experts, le gel des versements américains concernant la lutte contre la tuberculose met en danger des millions de vies. Les coupes budgétaires soudaines menacent, je cite, de réduire à néant des progrès durement acquis. 19h08 à Bruxelles, l'automobile est en danger de mort. Ce sont les mots du vice-président de la Commission européenne, Stéphane Séjourné. C'est pour relancer un secteur en difficulté que Bruxelles a présenté aujourd'hui son plan de sauvetage. Bonsoir Nicolas Feldman.
Bonsoir Diane.
Et pour cela, Bruxelles mise plus que jamais sur la filière électrique.
Oui, une filière aujourd'hui en difficulté. Les causes, elles sont connues. Des voitures électriques encore trop chères, victimes de la concurrence chinoise. Résultat, les ventes ne décollent pas. Pour doper le marché, Bruxelles entend donc d'abord agir sur la demande. La Commission européenne veut par exemple imposer aux entreprises des quotas de véhicules électriques. Écoutez à ce propos le vice-commissaire européen Stéphane Séjourné. Il était interrogé par nos confrères de l'AFP.
Nous souhaitons booster la demande et donc créer des nouveaux marchés. On va donner des incitations notamment pour le verdissement des flottes professionnelles pour les entreprises qui détiennent des véhicules professionnels pour que ça aille plus vite et puis surtout pour donner un carnet de commandes à nos industries.
Autre point de ce plan, Bruxelles va demander aux États de mettre en place des subventions pour les plus modestes afin de les inciter à acheter des véhicules électriques.
Et Nicolas, pour doper l'électrique, la Commission veut aussi soutenir l'ensemble de la filière.
Oui, avec au tout début de la chaîne, les fabricants européens de batteries électriques, ils devraient recevoir des subventions à la production. Un coup de pouce va être aussi donné pour déployer plus de bornes de recharge en Europe, 570 millions d'euros débloqués d'ici l'année prochaine.
Les constructeurs ne sont pas non plus oubliés.
Puisque pour les accompagner vers le tout électrique, Bruxelles leur accorde un répit. Ils auront 2 ans de plus pour atteindre leurs objectifs de réduire leurs émissions de CO2 de 15%. Les constructeurs s'évitent ainsi des amendes dès cette année. C'est une bonne nouvelle pour tout le secteur, explique Flavien Neuvy. Il est économiste, Observatoire CTLM.
L'industrie automobile est une industrie qui est gourmande en capitaux. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup, beaucoup d'argent pour investir. Et évidemment, si les constructeurs avaient dû payer des milliards et des milliards d'euros d'amendes, c'est des milliards d'euros qui ne seraient pas allés dans l'investissement, la recherche et le développement. Donc, les constructeurs sont évidemment soulagés d'avoir été entendus sur les alertes qu'ils émettent maintenant depuis plusieurs mois.
Voilà, Bruxelles insiste, ce répit accordé aux constructeurs n'est pas un renoncement. Sa feuille de route reste la même, interdire la vente de véhicules thermiques neufs d'ici à 2035.
Un dossier signé Nicolas Feldman du service économie de RFI. Merci beaucoup Nicolas. Les constructeurs pourront donc bénéficier d'un geste concernant le respect des nouvelles normes CO2. Faut-il y voir le préambule à d'autres reculs concernant les objectifs de baisse des émissions en 2030, voire à l'interdiction des ventes de voitures thermiques neuves en 2035? Nicolas Feldman le disait, Bruxelles a insisté, ce n'est pas au programme pour les années qui viennent. Mais pour Pierre Leflève, en charge des transports au réseau Action Climat, la menace n'est pas à exclure et ce n'est pas ce qui l'inquiète le plus. Écoutez-le.
Surtout, ce qui m'inquiète, c'est au-delà de la remise en cause des objectifs, c'est que même les objectifs 2030, si on a retardé l'atteinte des objectifs 2025, la pente va être encore plus raide. Et cette pente-là, alors, c'est toujours possible de la part des constructeurs, mais ça va nécessiter une transition plus brutale. Ceux qui vont payer les pots cassés, c'est pas les constructeurs, c'est le reste de la filière. Un constructeur, si du jour au lendemain, il veut largement accélérer sa production de véhicules électriques, il peut le faire parce qu'il y a une offre concurrentielle sur des fournisseurs pour tous les matériaux et la production nécessaire à un véhicule électrique, et il va juste pouvoir changer du jour au lendemain de fournisseur. Le problème, c'est tout le reste de la filière qui aura beaucoup plus de mal à pouvoir se retourner dans un laps de temps aussi court. Et puis aussi, il y a cet objectif de neutralité carbone à horizon 2050, mais plus on met de temps à l'atteindre, plus il y aura des émissions de gaz à effet de serre pendant ce temps-là et plus on accélère le réchauffement climatique.
Pierre Leflève du réseau Action Climat, joint par Pauline Glaise. Paris, Londres et Berlin appellent Israël à laisser l'aide humanitaire rentrer dans Gaza. En effet, depuis dimanche, les autorités israéliennes empêchent la livraison de nourriture et de produits médicaux dans le territoire palestinien, ce qui pourrait constituer, selon les 3 capitales européennes, une potentielle violation du droit international humanitaire. Un peu plus tôt ce mercredi, c'est l'Afrique du Sud qui a vivement critiqué l'État hébreu, l'accusant d'utiliser la famine comme arme de guerre, je cite. Au Liban maintenant, des frappes de drones israéliens ont fait 2 blessés dans le sud du pays, 2 frères qui ramassaient de la ferraille, selon l'agence officielle libanaise ANI. Des bombardements en dépit du cessez-le-feu en vigueur. L'armée israélienne explique de son côté avoir ciblé des personnes qui chargeaient des armes dans des véhicules. Un nouvel accrochage qui montre en tout cas la fragilité de la trêve dans une région du monde meurtrie. Justement, Amnesty International appelle à lancer une grande enquête internationale pour crimes de guerre au sujet, plus spécifiquement, des attaques israéliennes menées l'automne dernier contre des institutions de santé, des ambulances et le personnel médical au Liban. Selon l'ONG, Israël n'a pas fourni assez de preuves concernant la présence d'objectifs militaires du Hezbollah dans les locaux ou les véhicules visés. Les explications d'Abla Jounaïdi.
D'octobre 2023 à novembre 2024, le sud du Liban et Beyrouth sont en proie à des bombardements israéliens intenses. Les infrastructures de santé, bien que protégées par le droit international, ne sont pas épargnées. L'armée israélienne accuse l'IHA, une organisation médicale affiliée au parti Hezbollah, de prêter ses locaux à des fins militaires. Amnesty a joint des soignants, directeurs d'hôpitaux et proches de victimes et visité des locaux touchés. Rien n'indique, selon elle, de présence armée. Sahar Mandour, chercheuse pour le Liban à Amnesty International.
Nous avons choisi de travailler sur 4 attaques différentes, incluant diverses organisations. Certaines affiliées au gouvernement, d'autres au Hezbollah, d'autres encore indépendantes comme la Croix-Rouge. Et cela afin de démontrer que ce sont tous les acteurs de la santé dans le sud qui ont été attaqués. Le droit international les protège tous, y compris l'IHA, tant qu'elle n'est pas impliqué dans des activités militaires.
Avec un nouveau Premier ministre libanais, ancien juge de la Cour pénale internationale, Amnesty presse les autorités à adhérer au statut de Rome et permettre une enquête internationale.
Nous avons un peu l'espoir que ce nouveau gouvernement agira afin que la CPI enquête et juge ces crimes de guerre présumés contre le personnel et les installations de santé.
Selon le ministère libanais de la Santé, entre octobre 2023 et novembre 2024, près de 70 hôpitaux ont été détruits, 222 membres du personnel de santé tués par les bombardements israéliens.
À Blajounaïdi, les affrontements continuent dans la province de Latakié en Syrie, bastion des pro-Bachar al-Assad. 4 civils ont été tués en 2 jours dans le secteur, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis on termine ce journal avec un voyage qui sera sans doute le dernier des touristes occidentaux avaient pu visiter la Corée du Nord pour la première fois après 5 ans de fermeture complète des frontières pour cause de pandémie de Covid-19. Certains dans le pays espéraient une réouverture progressive aux visiteurs étrangers. Mais finalement, les autorités nord-coréennes ont brutalement décidé d'annuler jusqu'à nouvel ordre toutes ces visites, notamment dans la ville de Rason, près de la frontière chinoise. C'est une correspondance depuis Séoul, en Corée du Sud, de Celio Fioretti.
Le régime nord-coréen n'a pas donné d'explication officielle suite à sa décision, mais pour Shreyas Reddy, journaliste spécialisé sur la Corée du Nord, la mauvaise presse au sujet du pays pourrait être la raison de la fin des visites.
Si je devais spéculer, une raison possible serait que les autorités nord-coréennes s'inquiètent des récentes photos, vidéos et descriptions faites de la ville de Rason par les touristes y étant allés à la mi-février. Depuis quelques jours, ils ont dépeint un portrait assez peu flatteur de la ville comme étant sous-développée.
Une mauvaise image que le régime nord-coréen n'avait visiblement pas anticipée, mais dont il est difficile de faire sans, d'après Joe Smith, touriste britannique qui revient de Corée du Nord.
Les Nord-Coréens se sont créés un problème tout seuls car l'annulation du tourisme attire encore plus l'attention des médias. Disons que le pays restera fermé pendant encore un an. Quand les touristes vont revenir, ça va recommencer. Il y aura beaucoup de blogueurs prenant des vidéos, des images, donnant leur avis sur le pays et je suis sûr qu'il y aura encore des articles assez négatifs à ce sujet.
Pour l'heure, la Corée du Nord a fermé ses frontières aux touristes occidentaux jusqu'à nouvel ordre. Seuls les touristes russes sont toujours autorisés. Celio Fioretti, Séoul, RFI.
18h16 en temps universel, c'est la fin de ce journal, mais on reste encore ensemble une quinzaine de minutes.
Diane Berger.
L'actualité africaine revient sur RFI dans maintenant moins d'un quart d'heure. Mais d'abord, nous allons revenir plus en détail sur les enjeux du discours d'Emmanuel Macron ce soir. Ce sera avec Yves Tréhard de la rédaction du Figaro. Ensuite, le reportage international nous emmènera en Suède où les gangs multiplient les règlements de compte. Et trop souvent, vous l'entendrez, des mineurs se retrouvent embrigadés. Et puis d'abord, le journal des sports. Présenté ce soir par Eric Mamrut. Bonsoir Eric.
Bonsoir Diane, bonsoir tout le monde.
La Ligue des champions de football suite ce soir avec la fin des huitièmes de finale aller.
Et un choc qui fait saliver la planète football, celui entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, l'actuel leader de la Première Ligue face à un champion de France en mode rouleau compresseur en 2025. Depuis la reprise, le club parisien a en effet remporté 15 de ses 16 derniers matchs avec 54 buts inscrits à la clé. À lui tout seul, Ousmane Dembélé en a marqué la bagatelle de 18, l'international français qui sera l'un des atouts majeurs de l'attaque du PSG ce soir. Ousmane Dembélé, évidemment apprécié par ses partenaires et pas seulement pour ses qualités footballistiques. Écoutez le jeune milieu de terrain portugais Jean Neves.
Pour moi, Ousmane Dembélé est une bonne personne. Je l'ai déjà dit auparavant, mais je préfère l'homme que le joueur. C'est vrai que c'est un joueur extraordinaire, mais j'apprécie encore plus l'humain. Je suis content d'être là avec lui, j'apprends à ses côtés et je suis très heureux de ce qu'il a accompli cette saison jusqu'à maintenant.
Ousmane Dembélé côté PSG, Mo Salah côté Liverpool, l'Égyptien qui lui aussi affole les compteurs en Première Ligue. Avec 30 buts inscrits et 22 passes décisives à son actif depuis le début de la saison. Bref, un PSG-Liverpool qui vaut vraiment le détour. Coup d'envoi au Parc des Princes à 20h temps universel à suivre en fil rouge sur RFI avec Cédric de Oliveira et plus largement lors de la deuxième période qui aura lieu pendant l'émission Radio Foot International prévue ce soir en direct.
Deux autres huitièmes de finale débuteront à la même heure aussi, Eric.
Un duel 100% germanique entre le Bayern Munich et sa bête noire. Le Bayer Leverkusen de Xavi Alonso n'a plus perdu, en effet, face au club bavarois depuis 6 rencontres. L'autre affiche est beaucoup plus latine entre le Benfica Lisbonne et le FC Barcelone. Deux équipes qui se retrouvent après s'être affrontées lors de la phase régulière le 21 janvier dernier. Le Barça l'avait ainsi emporté sur le fil au Portugal 5-4. Le Benfica sera donc revanchard et redoutable ce soir, comme le pressent l'entraîneur du club catalan Hansi Flick.
Je pense qu'à ce niveau de la compétition, il ne reste plus que des équipes dangereuses. Il n'y a aucun match facile. Chaque club mérite d'être en huitième de finale. Je pense aussi que Benfica est une équipe fantastique. Nous allons jouer dans un stade magnifique. C'est une atmosphère très spéciale là-bas. Les supporters poussent énormément leur équipe. Ce sera très compliqué pour nous à Lisbonne, mais nous avons hâte.
Le Benfica Lisbonne qui avait sorti Monaco au tour précédent. Quant au quatrième, huitième de finale aller du jour, eh bien, il est en cours depuis une petite demi-heure. À Rotterdam, le Feyenoord, nouvellement entraîné par Robin van Persie, reçoit l'Inter Milan. Avec dans ses rangs les Français Marcus Thuram et Benjamin Pavard. Le score après 35 minutes, toujours 0-0.
La FIFA annonce une dotation XXL pour le nouveau Mondial des clubs.
Prévu en juin prochain, la toute nouvelle Coupe du Monde des clubs offrira une dotation globale $1 milliard aux 32 clubs engagés. Parmi eux, le Paris Saint-Germain, qui au minimum devrait ainsi encaisser plus de $30 millions, voire $100 millions en cas de victoire finale. À titre de comparaison, la dotation globale du dernier mondial 2022 au Qatar était de $440 millions.
En France, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, Paulo Fonseca, passe aujourd'hui devant la commission de discipline de la Ligue nationale de football.
Le technicien portugais risque une très lourde sanction. Paulo Fonseca, coupable d'avoir défié tête contre tête l'arbitre de la rencontre Lyon-Brest dimanche dernier. Arbitre qui lui avait infligé un carton rouge et malgré ses excuses répétées depuis à l'encontre de Benoît Millot et du corps arbitral, l'entraîneur lyonnais pourrait se voir infliger jusqu'à 7 mois de suspension. Le verdict devrait tomber tout à l'heure.
Un dernier mot de tennis.
Avec le coup d'envoi ce soir du tournoi d'Indian Wells en Californie, un premier Masters 1000 de l'année qui réunira les tout meilleurs mondiaux, à l'exception du numéro 1, Yannick Sinner, l'Italien, purge en effet actuellement ses 3 mois de suspension suite à ses contrôles antidopage positifs de l'année dernière. Le tournoi est également féminin avec les principales favorites, les Sabalenka, Swiatek et autres Coco Gauff. Et puis dès ce soir, on suivra côté français l'entrée en lice de Caroline Garcia, elle sera opposée à l'américaine Bernarda Pera.
Merci beaucoup, Eric Mamrut, pour ce journal des sports. Et puis l'actualité sportive, c'est aussi à retrouver sur notre site RFI.fr. Dans un peu plus d'une demi-heure, Emmanuel Macron va donc s'adresser à la France. Une prise de parole du président français annoncée ce matin à la veille d'un sommet européen exceptionnel consacré à l'Ukraine. Et cela aussi alors que la sécurité de l'Europe est en jeu après le recul du soutien américain par le président Donald Trump. Pour évoquer cette intervention, Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, est avec Romain Ouzoui.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Depuis la rédaction du Figaro, alors on va analyser avec vous les enjeux de cette allocution qui sera à suivre sur Radio France Internationale. Est-ce qu'on peut attendre de cette prise de parole du président français? Elle n'aura qu'un seul sujet, cette intervention, c'est l'Élysée qui l'a précisé. Emmanuel Macron va évoquer la défense nationale dans le contexte ukrainien.
Oui, effectivement, bon, il y a beaucoup d'inquiétudes évidemment en France comme partout en Europe, puisque les choix récents du président américain, de Donald Trump, ont quand même mis le monde sans dessus dessous, et notamment les liens transatlantiques. Et donc, ce soir, on s'attend à ce que Emmanuel Macron, à la veille de ce sommet européen, effectivement, rassure l'opinion d'une part, clarifie peut-être la position de la France dans ces circonstances compliquées, et puis présente aussi les choix nécessaires que devra faire notre pays pour justement être à la hauteur des enjeux. Alors, on s'attend à ce qu'ils reviennent sur la force nucléaire française, la force de dissuasion nucléaire française, dont certains disent qu'elle pourrait être partagée ou imaginent qu'elle puisse être partagée ou redoutent qu'elle soit partagée avec d'autres pays européens, alors que normalement la France doit garder la maîtrise d'appuyer seule sur le bouton, puisqu'elle est aussi avec la Grande-Bretagne l'un des deux seuls pays européens à disposer de la force de dissuasion nucléaire. On s'attend aussi beaucoup à ce que le président de la République nous parle d'augmenter le budget et les moyens militaires français. C'est ce budget qui pourrait être presque doublé d'ici à quelques années pour qu'on soit à la hauteur des défis qui se posent à nous. Et alors là, comment réarmer un pays quand vous êtes endetté comme nous le sommes? Eh bien, ça va être toute la difficulté probablement. Alors ce soir, on peut s'attendre à ce qu'il donne des directions, mais que sur la méthode, il en dise assez peu, parce que finalement, personne ne sait trop. Est-ce que ces dépenses doivent-elles être mutualisées ou est-ce que ça relève de chaque nation? La mutualisation paraît bien difficile. difficile parce qu'en matière de défense, la Commission européenne n'a normalement pas de compétences. Dans un pays, comme je le disais, extrêmement endetté, ça va être compliqué d'augmenter le budget, de doubler le budget, qui est aujourd'hui le budget militaire de la France. Il est d'environ 60 milliards d'euros et il souhaiterait que d'ici à 2 ou 3 ans, il soit quasiment au double. Donc ça va être très difficile et c'est là tout le pari du président de la République qui va ce soir être aussi dans un exercice qui lui permet de revenir au centre du jeu aussi, parce que depuis la dissolution, on peut dire que le pouvoir s'était un peu déplacé, l'autorité s'était un peu déplacée, et c'est le chef des armées, et le chef des armées revient en pleine lumière ce soir.
Il peut engranger des gains sur le plan intérieur, justement, en évoquant son rôle dans la sécurité européenne.
Vous savez, en matière de politique étrangère et de défense, c'est rare que les présidents, depuis le début de la Ve République, engrangent des gains. Simplement, il ne faut pas qu'ils se loupent, quoi. Il faut qu'ils restent au niveau d'un chef de l'État. Et donc, je pense que c'est un moyen pour lui de réaffirmer son autorité et puis de sortir d'une certaine façon par le haut. En gérant très bien cette crise, qui est une énième crise, qui est quand même aussi beaucoup plus inquiétante que les précédentes qu'il a traversées.
Les enjeux de l'allocution d'Emmanuel Macron, prévus dans quelques dizaines de minutes, c'était avec Yves Tréhard de la rédaction du Figaro. Il répondait à Romain Ouzoui. 19h25 à Stockholm, en Suède, le pays confronté à une guerre des gangs, quasiment une fusillade par jour ces dernières années. Le Royaume est l'État européen le plus touché par les règlements de compte. Et on croise dans ces affaires de plus en plus de jeunes, voire de très jeunes. En un an, le nombre de moins de 15 ans soupçonnés de meurtre, de complicité de meurtre ou de tentative de meurtre a quasiment triplé en Suède. Reportage à Stockholm d'Ottilia Ferret.
On les appelle les enfants soldats. Ils n'ont parfois que 10 ou 11 ans et sont engagés comme tueurs à gages parce qu'ils n'ont pas atteint l'âge de responsabilité pénale fixé à 15 ans. Une aubaine pour les gangs qui vivent du narcotrafic. Victor, 25 ans, côtoyait certains d'entre eux à l'époque où il était membre d'un de ces gangs à Stockholm.
J'ai pas vraiment recruté, mais j'ai bien demandé à des adolescents de faire des trucs pour moi, comme détruire des preuves ou faire exploser des entrées de bâtiments. Mais le plus souvent, c'était des ados qui venaient me voire d'eux-mêmes. La principale raison pour s'engager dans les gangs, c'est l'argent, bien sûr. L'argent est une forme de statut. Moi, je sais ce que je recherchais. C'était d'être respecté.
Des choses que Jonas Söderlund reconnaît dans les enfants qu'il rencontre dans les écoles, dans la rue ou les centres de jeunesse. Il est coordinateur local et son métier consiste à empêcher les enfants de se tourner vers la criminalité.
Aujourd'hui, je m'occupe des enfants dès l'âge de 6 ans. Ça peut commencer comme ça. Par exemple, l'enfant se fait prêter un beau bonnet de marque par quelqu'un. Le lendemain, la personne dit qu'elle veut le récupérer et lui dit qu'il y a une tache dessus. Maintenant, tu me dois 300 euros. Ensuite, il y a des menaces, des pressions, et puis on est coincé.
Face à l'explosion de la criminalité chez les mineurs, le gouvernement de droite, soutenu par l'extrême droite, veut autoriser la police à surveiller secrètement les appels téléphoniques et les communications électroniques des jeunes de moins de 15 ans. Il est aussi question d'imposer, à titre préventif, le port du bracelet électronique à certains dès l'âge de 15 ans. Des mesures controversées qui questionnent les valeurs fondamentales des Suédois, comme Robert, père d'une adolescente de 15 ans, ou encore Germain.
C'est tragique qu'on en soit arrivé au point de réfléchir à ce genre de loi. De manière générale, je suis contre tout ce qui peut violer l'intégrité des personnes, surtout quand il s'agit de mineurs. Mais la criminalité s'est tellement répandue que je comprends le besoin. Il faut que les choses changent.
Les enfants qui risquent de se tourner vers la criminalité, ce dont ils ont besoin, c'est de l'aide. Leur mettre un bracelet électronique au pied tout en les laissant dans le même milieu, ça ne les empêchera pas d'avoir des activités criminelles.
Le gouvernement étudie actuellement la possibilité de rabaisser l'âge de responsabilité légale à 14 ans et de permettre à la police de supprimer immédiatement des contenus illégaux sur les réseaux sociaux. Les autorités passent clairement à l'offensive et tentent de conjuguer répression, surveillance et prévention au risque d'empiéter sur les libertés individuelles. Ottilia Ferré, Stockholm, RFI.
Un reportage que vous pouvez retrouver sur notre site RFI.fr. C'est la fin de cette demi-heure ensemble. Merci beaucoup à Hélène Avril dans la régie. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec l'actualité africaine. Restez à l'écoute de RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous.
Juan Gomez.
Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et au standard 33 9 693 693 70.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI. Demain, sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Entre poésie, théâtre et acrobatie, Le Funambule, c'est la pièce que Jean Genet a dédiée au jeune acrobate qu'il a aimé. Une pièce lumineuse et sombre, à la fois que Philippe Torreton met en scène et interprète aux côtés de Lucas Bergandi au Théâtre des Abbesses. Ils seront nos invités.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.